Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au mouvement et aux formations des étudiants d'Afrique noire après les décolonisations. Aujourd'hui, le documentaire. Quand on parle de 1968 et de mouvements étudiants, on pense naturellement à Mexico, à Paris, à Berkeley et parfois au mai rampant suivant en 1969 qui s'est déroulé en Italie. Mais on pense rarement et on parle assez rarement du mai sénégalais. Il faut dire que ce mai sénégalais est un peu différent des autres mouvements étudiants dans le reste du monde puisqu'il est lié évidemment à la situation coloniale et de décolonisation relativement récente de ce pays. Eh bien, Séverine Niattar et Véronique Samuilov vont nous raconter ce mai africain, Dakar 68. Où la révolte des étudiants pour la démocratie jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les témoignages d'Oumar Dioum, d'Ousmane Camara, de Marie-Ange Savané, de Demba Moussa Dembélé, d'Ibader Thiam et de Mbaye Diak. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire.
Je crois que c'était le 24 avril 1968. Je me souviens bien, les étudiants me reprochaient d'avoir choisi le samedi matin pour faire la grève. Bon, les étudiants sont très prompts à critiquer. Bon, c'est normal, c'est la jeunesse. Mais le gouvernement était très sourd. Et au mois de mai, comme il n'y avait pas d'évolution, on a décidé de faire une autre grève.
Le mai africain, Dakar 68, ou la révolte des étudiants pour la démocratie.
Les policiers que vous voyez ici dans le campus, là, la première fois qu'ils sont apparus dans le décor, c'est justement en 68. C'était le mardi 28 mai, quand ils ont commencé à encercler la cité. Et nous avons été bouclés dans cette cité, dans la nuit du 28 au 29 mai 68, avec les responsables syndicaux des élèves du lycée Van Vollenhoven. Il y en a deux qui ont passé la nuit dans ma chambre avec moi. L'un est député actuellement. Il a passé la nuit dans ma chambre, au couloir S, chambre 383.
Bon, ils ont encerclé l'université et d'un seul coup, ils ont sonné le clairon. Alors la troupe est entrée à l'intérieur du campus et les étudiants ont fui et on les a pourchassés jusqu'à l'intérieur de la cité. C'est pourquoi ils ont cassé toutes les portes de tous les pavillons pour sortir les étudiants sans distinction.
Le 30 mai 1968, alors que la grève estudiantine se répand au-delà de l'université, le président Senghor déclarait, dans un discours radiodiffusé, « Ce qui est grave, c'est que sous couleur de revendications corporatives, une minorité prétende bloquer le fonctionnement même des institutions. Par-delà les revendications corporatives, il y a une revendication politique, dictée par l'étranger. Il s'agit de détruire, avec les structures de notre jeune État, l'indépendance nationale elle-même, sans laquelle nous n'aurions aucune raison de vivre. » En fait, le mai sénégalais, loin d'être un mimétisme en relation avec les soulèvements qui agitent les universités françaises, découle d'un mécontentement général de toutes les couches de la société à l'encontre d'une décolonisation inachevée après 7 années d'indépendance. Les étudiants furent les premiers, dès le milieu des années 1960, à contester un régime politique autoritaire et la mainmise totale de l'ancienne puissance coloniale sur l'économie sénégalaise, l'éducation nationale et les affaires de l'État. Alors que le pays connaît un taux de chômage sans précédent, la crise sociale prend le pas sur la crise universitaire, obligeant le gouvernement à entreprendre des négociations et à entrer dans un processus irréversible vers la démocratie.
Dakar est une grande ville moderne, une plaque tournante entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et il faut le dire, c'est aussi une ville très agréable. Ceci, c'est la corniche. Et sur cette corniche se dressent les bâtiments de l'université. Il y a bien sûr une cité universitaire qui abrite des centaines d'étudiants. Car tous ne sont pas sénégalais, bien sûr. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest y sont représentés. C'est une université de caractère international.
Dakar était le creuset intellectuel.
Marie-Ange Savani.
Tous ceux qui venaient du Bénin, à l'époque le Dahomey, le Togo, le Mali, le Burkina, tous les pays de la Côte d'Ivoire, étaient ici au Sénégal et formaient quelque chose d'assez explosif.
Il faut dire aussi un aspect important, il faut se rappeler
Oumar Dioum.
Qu'encore une fois, on était 4200 à peu près étudiants donc à l'Université de Dakar, du Tchad au Sénégal. Il y avait à peu près 1000 bacheliers reçus par année. Vous vous rendez compte par rapport aux 40 000, 50 000 bacheliers d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il y avait vraiment... Et le bac était un diplôme professionnel. Même le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, après les 4 années d'études secondaires, même le certificat d'études primaires élémentaires permettait d'avoir un travail de commis. Donc c'était vraiment un vrai bouleversement.
À l'Université de Dakar, toutes les disciplines sont enseignées. Lettres, droit, sciences, médecine et pharmacie.
ORTF, novembre 1964.
Mais ces étudiants, que feront-ils à la fin de leurs études? C'est l'un des problèmes qui se posent à leurs éducateurs.
Cette relève africaine fait partie des soucis du gouvernement sénégalais. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu nous dire comment son gouvernement a réglé ce problème.
À ce sujet, d'ailleurs, notre gouvernement vient de prendre un décret de planification des bourses. Donc, en ce qui concerne l'État, les études seront strictement orientées selon les besoins de la nation. Par conséquent, les étudiants qui seront appelés à être boursiers de l'État seront tenus d'exercer les fonctions pour lesquelles ils avaient obtenu des bourses. Et dans ce cadre, nous pensons effectivement également planifier l'utilisation de nos cadres et en particulier en envoyer de plus en plus en bourse où on en a le plus besoin et qu'en ville. Ils ont pris cette position qui est assez autoritaire, mais nous pensons qu'en état actuel des choses, il le fallait bien.
La grande majorité des professeurs étaient des Français. Et il faut dire même qu'il y a une faculté qui dépendait directement de la France, qui était gérée par la France, c'était la faculté de médecine, qui dépendait de celle de Bordeaux.
Baye Diack, étudiant en mathématiques, responsable du syndicat UDES.
Les autres facultés, il y en avait quatre. Bon, la faculté de médecine, la faculté de droit, la faculté de lettres et la faculté de sciences. Trois étaient plus ou moins gérés par le Sénégal, mais dans les faits, en tout cas, c'était en fait la France qui gérait tout. Parce que d'abord, c'était les rapports qui existaient entre nos deux pays. Et ensuite, nous n'avions pas aussi suffisamment de cadres, en tout cas pour gérer l'université à l'époque. Il y avait quelques professeurs, africains, de façon générale, la plupart étaient des assistants ou dans le meilleur des cas des maîtres assistants. Mais les vrais professeurs étaient des Français, c'est très clair.
60, nous sommes indépendants, 64, on ne peut pas avoir comme ça des gens.
Ousmane Camara, chef de la sûreté.
Est-ce qu'on aurait beau dire, faut sénégaliser, africaniser les enseignements, mais on ne peut pas aussi, à l'université, africaniser comme ça à tour de bras. Donc c'est la lutte anticolonialiste qui a continué. Les étudiants ont continué à se considérer comme étant opposés à une puissance étrangère, bien que la couleur ait changé. Et c'est ainsi que Senghor, qui était dans un pays où nous étions de tradition pluraliste au point de vue politique, contrairement aux autres États africains, Senghor a pensé trouver la solution en affirmant la pluralité des partis, mais en privilégiant ce qu'il appelait l'unification des partis. Au lieu du parti unique, il a préféré avoir les partis unifiés en négociant avec les autres. Il a réussi ainsi, de 62 à 66, à éliminer progressivement tout ce qui pouvait être parti d'opposition, en les phagocytant, pour vous ainsi dire, en les faisant intégrer son propre parti. Mais il n'avait pas tenu compte du fait qu'il y avait le mouvement étudiant qui, sans s'appeler parti politique, avait comme base pratiquement la lutte politique. Senghor se trouvait brusquement en face d'une espèce d'opposition politique qui ne disait pas son nom, mais qui était à l'université.
ORTF, journal télévisé. Du 13 avril 1966.
À Dakar, ouverture du premier festival mondial des arnais. Une occasion pour le président Senghor de préciser l'apport du continent noir à la civilisation universelle et pour M. Malraux d'inviter l'Afrique à conquérir aussi sa liberté artistique. Outre 600 chefs-d'œuvre réunis pour la circonstance, des écrivains, des artistes noirs du monde entier, de Duke Ellington à Marpessa Down et à Catherine Denham, se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise pour célébrer la prise de conscience culturelle de l'Afrique.
Pour revenir à l'art nègre, ce sont les Européens eux-mêmes qui les premiers l'ont découvert et défini. Les nègres africains préféraient le vivre. Et ce sont les plus éminents des artistes et des écrivains européens qui l'ont défendu, de Pablo Picasso à André Malraux, dont je salue ici le témoignage probant.
Les étudiants ont trouvé prétexte en février 1966 du renversement de Nkrumah au Ghana pour déferler dans les rues pour protester en disant qu'ils allaient protester devant l'ambassade des États-Unis et de Grande-Bretagne.
Ousmane Camara.
Et ils ont également estimé que le festival des arts nègres était une espèce de fête des nantis contre les peuples. Bref, à partir de ce moment, Senghor s'est rendu compte que la classe politique qu'il avait pensé juguler se retrouvait à l'université à cause des revendications étudiantes. Et c'est ainsi que progressivement, les choses ont été en se radicalisant.
En 1964, Senghor, après avoir plus ou moins neutralisé le pays,
Baïdiak,
il a voulu neutraliser complètement le mouvement étudiant.
Alors, qui était composé de plusieurs syndicats. Hein,
plusieurs syndicats. Il y avait l'Union Générale des étudiants d'Afrique, UGAO, qui regroupait tous les étudiants de l'Afrique occidentale, les anciennes colonies françaises. Bon, mais chaque ancienne colonie avait aussi son mouvement national. Par exemple, le Sénégal avait l'UGES, l'Union Générale des étudiants sénégalais. Bon, la Guinée avait son mouvement. Bon, la Côte d'Ivoire avait son mouvement. Le Togo avait son mouvement. Le Mali avait son mouvement. Donc, tous les anciens territoires, en tout cas, avaient leur mouvement chacun. Donc, en 1964, ce mouvement a été dissous par Senghor. Un midi, quand on était au restaurant, nous avons vu pénétrer à l'intérieur du restaurant un groupe d'étudiants dirigé par Moustapha Niass. À l'époque, alors ça s'appelait l'UPS, parce que le parti de Senghor s'appelait l'UPS. Et c'était un parti, alors, unique. Évidemment, Senghor l'appelait un parti unifié. Il n'a jamais voulu utiliser l'expression parti unique. Il disait que c'était un parti unifié. Bon, donc ce mouvement d'étudiants alors est venu distribuer un tract à l'intérieur du restaurant. Bon, et par ce tract, nous avons appris que les différents mouvements alors étaient dissous. Ce n'est pas parce que l'organisation était dissoute, l'UGES était dissoute, que nous devions croiser les bras. Nous avons continué à travailler dans la clandestinité, à fonctionner, à nous organiser par cellules dans les chambres. Résister.
Vous étiez combien à peu près en fait? Ça représentait combien d'étudiants justement ce,
bon, il faut dire qu'à l'époque, les étudiants sénégalais n'étaient pas très nombreux. Ils étaient à peu près quelques 500 étudiants au milieu des années 64, 65, etc. Bon, donc nous avons résisté et en 1966, je crois que c'est le 26 février 1966, si mes souvenirs sont exacts, que Nkrumah a été renversé par un coup d'État au Ghana. Et le 28 février, donc deux jours après, alors nous avons organisé une manifestation spontanée à l'intérieur de l'université d'abord.
C'était des manifestations contre l'impérialisme, contre le colonialisme.
Le néocolonialisme et tout ce qui leur est apparenté. Senghor, on l'appelait le valet de l'impérialisme. Actuellement, à l'au-delà, bon, nous lui souhaitons en tout cas beaucoup de choses là où il est, mais sur le plan politique, pour nous, c'était un valet de l'impérialisme carrément, quoi. Bon, il avait certes des qualités, Ça, c'est très clair, il faut le reconnaître. Mais quand même, c'était un représentant authentique, en tout cas, des idées de la France ici. Après ces événements de 66, là, notre manifestation, bon, il y a eu des étudiants qui ont été capturés. On les a arrêtés, on ne les a pas mis en prison. C'est-à-dire, le ministre de l'Éducation nationale les a conviés à une rencontre au ministère de l'Éducation nationale. Après maintenant la rencontre avec la direction des étudiants, bon, il a fait passer les Sénégalais par les escaliers. Et les étudiants non sénégalais par l'ascenseur. Et lorsque les non sénégalais sont descendus de l'ascenseur, ils ont trouvé qu'il y avait un quart de police qui les attendait pour par la suite les expulser dans leur pays respectif. Évidemment, quand nous avons été informés de cela, notre réaction était immédiatement de nous solidariser à eux et nous avons décidé de quitter l'université, de rendre les clés et de partir. Tous. Cela a créé une situation inédite qui n'était pas prévue ni par le gouvernement sénégalais ni par le gouvernement français. Alors, c'est donc devant cette situation inédite que la France a eu à dire qu'il faut absolument faire tout pour faire revenir ces étudiants-là et qu'il n'est pas question, en tout cas, qu'on les amène en France. Donc, il faut négocier, en tout cas, pour les ramener.
Donc là, toujours en 66
Tout cela, c'est en 66. Donc, il y a eu des négociations sous la pression de la France. Et finalement, le gouvernement sénégalais a accepté que tous les étudiants reviennent, y compris ceux qui avaient été expulsés par le ministre de l'Éducation nationale.
Parce qu'il y avait aussi le premier festival en 66. Ouais. Sangor voulait...
Des
Arnègres. Donc, il voulait aussi que la situation
Sénégal,
soit...
Que l'image du Sénégal soit calmée. Mais il faut dire qu'il y a eu une très forte pression de la France sur cette question-là. Parce que la France n'avait aucune envie de recevoir tous les étudiants africains dans son territoire à l'époque, comme ça.
Donc, il y avait une espèce, je ne dirais pas de vide politique, parce que le pays travaillait clandestinement.
Oumar Dioum.
Le bloc des masses sénégalaises de Cheikh Diop, le Front National Sénégalais, les djihadistes, tout ce monde-là travaillait dans la clandestinité. Et il y avait aussi quelques irréductibles du Pras Sénégal qui n'avaient pas accepté donc l'absorption par l'Union progressiste sénégalaise. Donc il y avait une atmosphère, je dirais, de clandestinité, donc de sourd mécontentement de beaucoup de couches, et avec des syndicats qui étaient quand même très forts, qui sortaient à peine de la lutte politique pour l'indépendance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'indépendance politique, on l'a eu seulement en 1960, et on était en 63, 64, 65, donc... ces luttes-là, en fait, d'une certaine manière, continuaient. Donc, toutes ces tendances politiques-là se reflétaient dans le mouvement étudiant.
Je suis allé au collège en 1950. Et j'en suis sorti en 1955. Et j'ai dû, pendant ces 4 ou 5 années, faire 3 établissements différents. Parce que j'étais toujours en train de me plaindre du fait que l'injustice coloniale, je ne supporte pas cela.
Ibader Thiam, responsable du syndicat des enseignants laïcs.
Si bien que chaque fois à la fin de l'année, le corps professoral se réunit ici pour dire, bon, écoutez, c'est un bon étudiant, c'est un bon élève, mais son état d'esprit est tel que nous ne pouvons pas le garder. Bon, il fallait qu'on me trouve une place ailleurs. Après avoir eu le brevet, ma mère en avait assez de toutes ces difficultés que j'avais. Mon père était mort et il m'a dit, bon, tu sors et tu vas aller dans l'enseignement. Je suis donc allé dans l'enseignement.
Tout de suite, assez rapidement finalement.
Tout de suite, assez rapidement.
Et à cette époque, Ibader Thiam, bon, avant qu'on arrive à mai 68, vous participez à des manifestations, justement dans la rue, etc.
Oui, parce que quand j'étais jeune à Kaolack, nous avions une association qui s'appelait la jeunesse scolaire de Kaolack, puis la jeunesse scolaire de Sine Saloum, dans laquelle se trouvaient les étudiants et les élèves. Et pendant les vacances, on donnait des cours de formation aux jeunes. C'est une sorte de centre d'incubation où les étudiants qui étaient déjà à l'université de Dakar venaient également nous rencontrer. Et nous faisions des conférences sur le référendum, sur la loi cadre, etc. J'ai donc été formé dans ce milieu-là, et j'ai grandi avec évidemment toutes les idées qui étaient les idées de l'Association des étudiants de Dakar, les idées de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, les idées du PAI. Donc très tôt, je me suis mis dans le mouvement syndical, dans le mouvement politique, dans le mouvement patriotique, etc.
Et vous n'aviez pas, vous, dans votre syndicat, Ibadertiam, vous n'aviez pas été réprimé, vous n'aviez pas subi des mesures de rétorsion, ce que va subir le mouvement étudiant avant, hein, 68 déjà, il y a des associations étudiantes qui sont interdites, remplacées par des associations plus proches du pouvoir. Vous, vous ne subissez pas des pressions de la part du gouvernement de Senghor, hein.
Bon, si, il faut dire que notre syndicat n'était pas bien vu par le pouvoir. Bon, comme Senghor n'était pas quelqu'un de tendre, il nous a si réprimés. Il a d'abord procédé à la scission de notre syndicat. Et beaucoup d'entre nous ont radicalisé leur position à partir de ce moment-là face au régime qui était en place. Mais comme c'était un régime qui bénéficiait aussi d'un soutien très large de la France, mais également de tous les pays occidentaux, n'est-ce pas ? Alors évidemment, personne ne nous écoutait. Mais nous étions en revanche soutenus par la Fédération syndicale mondiale, soutenus par le Parti communiste français, soutenus également par un certain nombre de forces syndicales, etc. Bon. Et cela avait créé entre le gouvernement et nous un contentieux. Je me rappelle combien de fois cette maison a été perquisitionnée, combien de fois les réunions qui se sont tenues ici ont été dispersées par la police casquée et motorisée, combien de fois... J'étais arrêté, j'étais en prison pour 24 heures, sorti, enfin, sans compter maintenant.
Un régime autoritaire, hein, quand même.
Ah, mais c'était un régime autoritaire, incontestablement. Un régime véritablement autoritaire et farouchement antidémocratique.
Pendant 3 semaines, à Paris, la Confédération syndicale Force ouvrière a organisé une session d'études économiques, sociales et syndicales à l'intention de militants syndicalistes africains et malgaches.
ORTF, 21 septembre 1967.
À l'issue de ces 3 semaines d'études, un des stagiaires a répondu à nos questions. Monsieur, quel pays représentez-vous ?
Le Sénégal.
Selon vous, quelle différence fondamentale y a-t-il entre le syndicalisme français et le syndicalisme africain ? Et
le syndicalisme français est de contestation, alors que le syndicalisme sénégalais est de participation et de contestation.
D'après vous, la participation en Afrique est plus importante qu'en France ?
Absolument plus importante. Sur 130 000 travailleurs sénégalais, les 98 000 sont organisés au sein de l'UNTS.
Il y a un pluralisme syndical en Afrique.
Oui, au Sénégal, la Constitution prévoit le pluralisme syndical.
Il y a combien de syndicats, par exemple, au Sénégal ?
Il y en avait 3, mais maintenant, depuis quelque temps, l'unification est faite au sein de l'UNTS. En général, en Afrique, toutes les organisations syndicales coopèrent avec leur gouvernement.
C'est ainsi que nous arrivons à la rentrée 67-68, où ils ont pris prétexte du fait que...
Ousmane Camara.
Pour des problèmes économiques, parce que là aussi, tout se tenant, Senghor s'est trouvé brusquement en face d'une situation économique qu'il n'avait pas prévue. Parce qu'il pensait toujours que la France, et surtout les maisons commerciales françaises installées ici de tout temps, allaient soutenir l'économie sénégalaise, qui était... malheureusement fondé uniquement sur la culture de la réussite. Donc ces années-là, on a appelé ça le malaise paysan, parce que les paysans se sont retrouvés un peu en difficulté. Et tout ça a fait que économiquement la situation se détériorant, il s'est trouvé en face de cette opposition estudiantine et n'a pas eu l'appui de ce qui a toujours fait sa force, les populations paysannes, parce que ces gens-là avaient d'autres soucis. Et c'est ainsi que les étudiants ont constitué une espèce de fer de lance pour tout ce qui était opposition. Février 68 correspondait aussi à des élections législatives ici. Les étudiants se sont engouffrés dans la Bresse puisqu'il n'y avait plus de parti d'opposition. Les étudiants se sont mis à jeter des tracts pour appeler la population à voter contre le régime de Senghor. Et le régime, enfin, Senghor a pensé qu'il fallait utiliser quand même la fermeté, etc. Et on a commencé par fermer certaines facultés. Les étudiants ont riposté en mettant dans la rue, ce qui ne s'était jamais vu, les élèves du secondaire.
La suppression de la première partie du baccalauréat et l'instauration de ce qu'on a appelé l'oral de contrôle
Baïdiak
a conduit à une inflation, si vous dites bien les mots, à une inflation à l'ordre des bacheliers. Tout le monde était presque admis au bac. Évidemment, ça a conduit aussi à une baisse du niveau par la suite. Parce que la première partie était certes très sélective, mais quand même, elle permettait quand même de faire venir à l'université des étudiants qui étaient vraiment aptes à entreprendre des études supérieures. Mais pas n'importe qui. Bon, donc, il y a eu beaucoup d'étudiants. Le gouvernement n'avait pas prévu cette situation, notamment sur le plan des bourses et de l'hébergement, parce qu'à l'époque, il suffisait d'avoir son baccalauréat pour être inscrit automatiquement à l'université et disposer d'une bourse entière de 24 500 francs à l'époque, qui représentait beaucoup d'argent. Donc les gens étaient à l'aise. À l'époque, les étudiants ne prenaient même pas le taxi ni les cars de transport en commun. Tous les étudiants se déplaçaient soit en voiture personnelle, soit en taxi. Alors ça, c'est très clair.
C'était l'élite, alors.
C'était vraiment l'élite. Bon, donc cette situation-là d'inflation des bacheliers, alors a fait que le gouvernement ne pouvait plus assurer à chaque étudiant, en tout cas une bourse entière de 24 500. Bon, ils étaient donc obligés de fractionner les bourses en demi-bourse et un tiers de bourse. Et très peu d'étudiants disposaient de la bourse entière de 24 500. Donc, sur le plan également de logement, bon, il y avait beaucoup de problèmes parce que les étudiants d'habitude étaient logés alors à deux au maximum au pavillon A
de la cité
actuelle. Bon, donc ce fractionnement des bourses et le fait de loger les étudiants à deux, à trois, à quatre, à cinq et d'autres n'étaient pas logés a conduit à une certaine frustration de la part des étudiants. C'est à l'époque, moi, que j'ai été élu, alors, président des étudiants, en 66-67.
Parce que le problème de bourse était d'autant plus grave que le gouvernement a failli nous diviser.
Oumar Diouf.
En nous montant les uns contre les autres. En disant à ceux qui venaient d'arriver, vous voyez, les autres, ils ont des bourses entières, et vous, vous avez des fractions de bourse. Alors, à ce moment-là, la direction que nous avions, qui était très intelligente, a pris les choses en main pour dire ça, c'est une lutte, n'est-ce pas, qui est commune. Et cette lutte commune-là a été bien menée. On a eu une grève d'avertissement le 18 mai 68. Et puis après ça, donc, il y a eu le déclenchement, donc la nuit du 28 au 29 mai, l'attaque de la cité, parce que Senghor était convaincu, le gouvernement était convaincu, qu'il y avait d'une part des armes cachées à la cité universitaire, d'autre part que nous étions manipulés.
Tous les étudiants sénégalais étaient pratiquement membres de l'UDES, tous. Dès que les gens arrivaient, ils venaient, ils adjustaient leur carte de membre de l'organisation et puis c'est tout. Bon, donc quand on a fait la grève, au mois de mai, à l'époque, il n'y avait pas encore le mouvement de mai 68 en France. J'insiste beaucoup sur ça. J'ai dit que nous avons commencé notre grève avant la France. Malgré tout, il y a des gens qui disent que nous sommes inspirés de Cohn Bendit et consorts. Alors, pour faire notre grève, alors que ce n'est pas tout. Les revendications principales de la grève, c'était les conditions d'existence des étudiants sur le plan alimentaire, sur le plan du logement et sur le plan pédagogique dans une certaine mesure. C'est pourquoi je crois que c'est le mercredi soir, à la veille de la... ou le jeudi soir, bon, quand Paul Tessier, le recteur de l'université, nous a convoqués au rectorat, pour me dire, Monsieur Mbaïdiak, nous avons rencontré Senghor et il m'a dit il faut que tu lui signes une note selon laquelle tu n'as aucune intention de renverser son gouvernement ni de participer à une action tendant à renverser son gouvernement. J'ai rigolé et j'ai dit, Monsieur le recteur, je ne signerai pas cette note. Parce que ça n'a jamais été de mes intentions de renverser qui que ce soit. Mon problème, c'est un problème de résoudre le logement des étudiants, l'alimentation des étudiants et les questions pédagogiques liées à leurs études. C'est tout. Ah bon, dans ce cas, ce ne sera pas facile de continuer la réunion. Je dis justement, je vais vous faciliter la tâche parce que je vais me retirer. Et je m'en vais. Je suis parti avec ma délégation. Alors, l'ensemble des étudiants africains intègrent la grève des étudiants sénégalais.
La contestation et la révolte des étudiants prennent les dimensions d'un phénomène planétaire.
En Allemagne, les compagnons de Rudi Le Rouge entretiennent un climat révolutionnaire.
Interactualité, 30 mai 1968.
À Madrid, la police est entrée dans l'université pour expulser les jeunes révoltés. Il y a eu des blessés et aussi des arrestations. Les manifestants avaient pris comme otage un inspecteur de police. Ils voulaient l'échanger contre un dirigeant syndical incarcéré.
En Italie, l'agitation est toujours aussi vive à Rome et à Milan. Sur le plan social, les travailleurs qui dépendent indirectement de l'État menacent de proclamer la grève générale si leurs revendications ne sont pas accordées.
Manifestations encore au Pérou et à Buenos Aires. La police doit intervenir à coups de grenades lacrymogènes. À Dakar, tous les collèges sont fermés par ordre du gouvernement.
Tous ces mouvements qui se développaient en Europe, dans les universités, dans les villes.
Aux États-Unis aussi.
Partout dans le monde. C'était un mouvement mondial.
Ibad Ertiam.
Et ça nous a très fortement marqué. Je pense qu'il faut avoir le courage de le connaître. Ça a fortement agi sur nous. Déjà qu'il y avait des contentieux qui étaient latents, qui n'étaient pas réglés. Alors quand s'est posé le problème des étudiants et que le gouvernement a réagi comme il a réagi, n'est-ce pas? Évidemment, nous avons, d'autant que nous avions avec les étudiants des relations très particulières. Nous étions un syndicat d'enseignants. D'ailleurs, c'est nous qui avons théorisé la jonction entre le mouvement estudiantin et le mouvement des travailleurs.
Alors,
la seule façon de contraindre Senghor à réviser sa politique, c'est d'établir une jonction entre le mouvement syndical, le mouvement estudiantin et le mouvement élève. De cette façon-là, nous représenterons une force suffisamment importante qu'il ne pourra pas maîtriser et avec laquelle il sera obligé de compter. Et c'est ici que ça a été théorisé, dans cette salle. Et c'est cette jonction-là qui a permis, en définitive, n'est-ce pas, d'avoir un mouvement de très, très, très vaste ampleur qui finalement a tellement ébranlé le régime que des bruits couraient même selon lesquels Senghor était sur le point de partir et qu'il aurait même envisagé de remettre le pouvoir à Jean-Alphonse Diallo. Bon, nous étions donc dans une sorte de cartel des syndicats autonomes, avec les médecins, n'est-ce pas, avec les syndicats des professeurs africains, avec les ingénieurs et techniciens du Sénégal. Et nous représentions un peu l'avant-garde du mouvement syndical en termes de rigueur et de viatique militant pour ce qui concernait les défis de l'époque.
C'est le 29 mai, donc vers la fin du mois de mai, que tout s'est arrêté ici dans ce pays. Alors, Senghor s'est trouvé pratiquement seul en face d'un mouvement qui non seulement englobait les étudiants, mais l'ensemble des secteurs vitaux, en sens que la santé, l'éducation, les fonctionnaires, tout le monde était dans la rue.
Vous savez, il y avait, je crois, une sorte de ras-le-bol général. Hein?
Demba Moussa Dembélé, lycéen à Saint-Louis.
Dans les écoles, les lycées, les autres écoles, et on s'est réunis, on a dit, mais il faut qu'on soit solidaires de nos aînés, parce qu'ils sont étudiants, nous on était encore lycéens. Et l'université était fermée à un moment donné, on dit, ah, nous on ne peut pas continuer à étudier, alors que l'université est fermée. D'autant plus que nous qui étions en terminale, on devait passer le bac et venir à l'université, on dit, bon, si il y a une crise à l'université, donc on sera affecté. C'est un point égoïste peut-être, si vous voulez. Mais c'est parti comme ça. Et tout de suite, on a formé une sorte de coordination au niveau de Saint-Louis. Bon, c'était vers le mois de début mai 1968, d'autant plus qu'on avait nos propres revendications au niveau des lycées, la manière dont...
Alors, c'était quoi les revendications des lycées?
Ben, la manière dont les enseignements étaient dispensés, une certaine discipline que nous trouvions trop étouffante. Donc, les conditions de travail qui n'étaient pas satisfaisantes. On se disait, bon, on est dans une société, dans un système dans lequel on ne se reconnaît pas. Et peut-être que c'est le moment de profiter de ce mouvement pour dire ouvertement ce que nous pensions, non seulement du système éducatif, mais également du régime en place.
Nous, on était en train de nous organiser pour voir ce qu'il faut faire, et d'un seul coup, ils ont sonné le clairon. Parce qu'on leur aurait dit que nous étions en train de fabriquer des cocktails Molotov, alors à la faculté de sciences. Tout est dit que quand le clairon a sonné, alors la troupe alors est entrée à l'intérieur du campus, et les étudiants ont fui, et on les a pourchassés jusqu'à l'intérieur, en tout cas de la cité. Le personnel qui travaillait, tout cela, moi j'étais à côté du directeur des œuvres, M. Berthet, que j'ai pitié de son âme, il est décédé. Bon, c'était le directeur de la cité universitaire. On l'a capturé, comme moi, on nous a parqué, en tout cas devant la porte de la cité. Quand ils ont fait le nettoyage totalement, maintenant, ils nous ont embarqués pour nous conduire au camp Mangin. Le camp Mangin était un camp d'air militaire français. On nous a parqués là-bas jusqu'à 18h. On a commencé à nous transférer vers le camp Archinar. Vers le coup de 20h, on a fait le tri. Bon, les Sénégalais devaient rester là-bas. Bon, les non-Sénégalais, on les a sortis pour les amener au lycée de la Force, alors pour qu'ils passent la nuit là-bas, en vue d'être expulsés naturellement. Bon, nous autres Sénégalais, nous sommes restés au camp Archinar pendant peut-être 11 jours, je crois, entre 10 et 11 jours, on était là-bas. Et après, on nous a libérés.
Lorsque la cité a été attaquée, lorsqu'on nous a emprisonnés, nous, c'est après qu'on a réalisé que nos camarades des autres pays avaient été rapatriés. C'est quand nous sommes sortis du camp Archinar, où nous étions détenus, du 29 mai au 9 juin 68, qu'on a réalisé en arrivant ici, devant la cité, devant les bâtiments, en voyant des tableaux où on avait vu, par exemple, Maliens, n'est-ce pas, vol tel jour à telle heure, Tchadien, vol tel... C'est là qu'on a réalisé, on a vu que tous nos camarades avaient été déportés, expulsés du Sénégal. Ça avait déjà eu lieu déjà en 1966. Après la chute d'Nkrumah, l'université avait été fermée pendant 45 jours et nos camarades non-sénégalais avaient été rapatriés. Donc, Senghor, tout de suite, a fermé l'université pour 2 ans et a donné des bourses.
Pour 2 ans
directement. À donner des bourses à chaque étudiant sénégalais pour partir à l'étranger. C'est dire combien les temps ont changé. Aucun d'entre nous ne voulait partir. Combien les temps ont changé. Nous lui avons dit de garder ses bourses. L'un des mots d'ordre qu'on avait lancé, c'était le boycott des examens, n'est-ce pas, et le refus des bourses à l'étranger tant que les problèmes ne seraient pas réglés. Et pour dire l'esprit d'unité africaine et de panafricanisme que nous avions, qui n'est pas comme le panafricanisme de salon des diplomates aujourd'hui là, dans les hôtels, et, n'est-ce pas. Un vrai panafricanisme vécu, l'une des conditions qu'on avait posées et qui n'était pas négociable, c'était que tous nos camarades qui avaient été expulsés reviennent, que notre président qui avait été expulsé, Samba Baldé, revienne, que ceux de nos camarades guinéens qui étaient des opposants à Sékou Touré et qui ne pouvaient plus poursuivre leurs études ici à cause de la fermeture de certains départements de l'université bénéficient pendant 1 an de bourses payées en France par le gouvernement sénégalais, ce qui a été effectivement réalisé. Donc c'était un mouvement d'une ampleur extraordinaire, n'est-ce pas ?
C'était politique, dans ce sens-là, on ne peut pas dire
que
c'était...
C'est tellement vrai que c'était politique.
Il faut dire que le peuple était très exaspéré par la manière surtout dont on a été transféré du camp Mangin au camp Archinar, dans des camions militaires là. Bon, en traversant la Médina, bon, tout le monde savait que d'abord le matin l'université avait été envahie par les policiers, qu'il y avait des brutalités. Le soir, on voit des étudiants transportés dans des camions, en tout cas en traversant la ville, etc. Bon, évidemment, les gens étaient exaspérés. Et il faut dire que le mouvement travailleur, à l'époque aussi, était fortement influencé par le PAI. Et naturellement, la direction du pays n'a pas hésité à utiliser la situation, en tout cas pour pousser les travailleurs à la grève. Ils ont convoqué un meeting de solidarité aux étudiants. Le meeting a été dispersé et évidemment, il y a eu beaucoup de désordre. Alors, par la suite, bon, des gens en ont profité pour organiser les pillages et tout. Alors, il y a eu Senghor qui a été obligé donc de prendre des mesures consistant à décréter le cessez-le-feu et tout cela, quoi.
À un moment donné, Senghor, qui avait perdu les pédales, et c'est vrai, avait donné l'ordre de tirer sur les pillards et les incendiaires. L'armée sénégalaise n'avait pas obéi à cet ordre. Et le général Diallo a montré à Senghor l'état de la ville, lui a fait survoler la ville par hélicoptère.
La police avait pris la bourse du travail, non?
La police, justement, le directeur de la Sûreté nationale, qui lui-même était un ancien militant du PAI et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, il se disait, mais comment tous ces dirigeants syndicaux ont-ils pu se mettre tous ensemble à la bourse du travail, me facilitant la tâche de les cueillir tous là?
Au moment de ces choses-là, l'armée était dirigée par le colonel Jean-Alfred Diallo. Et nous avons, lui au point de vue de l'armée, moi au point de vue des forces de police, dit au président Senghor que nous allions faire notre travail qui était de contenir les foules, mais que s'il y avait un dévorement, qu'il ne fallait pas compter sur les troupes pour tirer sur les gens.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ?
On a pris les dirigeants. On savait que les dirigeants ont commis cette maladresse de se réunir à un point donné, parce que les manifestants venaient de tous les quartiers. Syndicats, enseignants, etc., se sont réunis à la Bourse du Travail pour voir quelle stratégie mettre en place. Ça aussi, c'était un peu des novices. Ils se sont réunis et les forces de sécurité n'ont aucune peine à aller les prendre tous. Et immédiatement, Senghor, on était au mois de mai, juin, donc les vacances arrivant, il en a profité pour négocier avec les syndicats et tout ça.
Quand nous sommes arrivés au commissariat de police, on nous a triés. Alors nous avons été assignés à résidence surveillée. Ensuite, on m'a amené à la gendarmerie pour préparer mon acheminement sur Ololdou par train. Et les enseignants sont passés la consigne dans toutes les gares et dans toutes les stations. Je devais passer, il devait y avoir une manifestation d'enseignants. J'arrive à Ololdou.
Cet exil, ça dure jusqu'à combien de temps ça dure?
Je vais vous le dire, ouais. Justement, ça va être très rapide. Très rapide parce que vient le commandant de brigade de la gendarmerie de Bakel, accompagné du préfet et du préfet adjoint. Alors, ils avaient reçu la consigne selon laquelle je ne devais pas passer la nuit à Ololdou. Il fallait qu'on me ramène à Tambacounda pour me ramener à Dakar. Un avion viendrait me chercher parce qu'un accord a été trouvé entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants pour que la grève soit arrêtée à la condition que le gouvernement me libère.
Donc là, on est quel mois, Ibadar Thiam, à peu près?
Là, nous étions au mois de juin. On m'a amené à Dakar où le chef de cabinet de Hassan Seck, Yaya Koli, m'attendait à l'aéroport. Alors, il voulait que je fasse une intervention à la radio pour annoncer que j'étais de retour et que donc la grève était terminée. Mais comme nous connaissions les méthodes de Senghor à cette époque-là, on avait déjà préparé nos militants. On leur avait dit que même si d'aventure ils entendaient ma voix à la radio, parce que je peux avoir été torturé et à la limite de mes forces, je peux céder, il ne fallait pas qu'ils arrêtent le mot d'ordre de grève tant qu'ils n'auraient pas vu une mission du syndicat venue sur place leur intimer l'ordre d'arrêter la grève. Ensuite, maintenant, nous avons négocié et nous avons trouvé des accords.
Bon, donc quand nous sommes sortis, nous sommes organisés en cellules dans les quartiers pour voir comment nous allons en tout cas continuer la lutte. Bon, là aussi, il faut préciser qu'il y a eu la pression de la France. Parce que la France a vu que prendre tous les étudiants des anciennes colonies de l'Afrique occidentale en une seule année, ça allait poser un problème comme cela devait l'être en 1966. Donc, finalement, on nous a conviés à discussion. Bon, ces négociations-là se sont déroulées au mois de septembre. Bon, il y avait le gouvernement d'un côté, les étudiants en face et les syndicalistes. Donc, finalement, nous sommes arrivés à des accords qui consistaient essentiellement à ouvrir partiellement l'université. le premier point. Le deuxième point essentiel, nous devions accepter qu'on organise les examens de fin d'année en deux sessions. Et troisième élément, nous devions aussi être d'accord qu'il faut revoir la question du fractionnement des bourses. Il y a un dernier point, c'était la question des étudiants guinéens. Parce que vous savez très bien que les relations à l'époque entre Senghor et Sékou Touré étaient des plus malsaines. Nos préoccupations étaient que ces étudiants guinéens-là soient pris en charge au même titre que les étudiants sénégalais.
C'est à partir de là que certaines réformes ont été engagées au niveau de l'université, au niveau même politique, avec la nomination d'un premier ministre. À l'époque, il n'y avait pas de premier ministre. C'est à ce moment,
Abdou Diouf,
voilà, que une sorte de dialogue a été établi avec les associations d'étudiants, qui étaient plus ou moins reconnues maintenant, et qu'on consultait, parce que à partir de ce moment, le ministère de l'Éducation ne pouvait plus ignorer les associations d'étudiants établies à Dakar, d'une part, et d'autre part, les syndicats avaient plus de poids sur le plan national. On reconnaissait leur force, leur légitimité. Mais après mai 68, je crois que Senghor lui-même a compris qu'il ne pouvait plus gouverner comme auparavant.
Je crois que c'était ça, il y avait une vraie rupture d'une jeunesse qui était généreuse, qui était prête à tout donner.
Marie-Ange Savané, lycéenne à Dakar.
La jeunesse qui avait pu profiter quand même des bénéfices de l'indépendance. Et surtout quelqu'un comme Senghor. Bon, nous tous, on a été en France parce qu'il choisissait les meilleurs pour qu'on aille faire de grandes écoles. On nous donnait des bourses. Et pour lui, c'était difficile de comprendre. Enfin, je suis en train de former une élite. Et c'est cette élite-là qui se retourne contre moi. Et ça correspondait un peu à ce qu'on a vu en France. C'était quand même les gens des grandes écoles, de l'école normale sup et tout ça, qui ont été à contre-courant du système.
Après aussi, il y a eu d'autres revendications qui ont commencé à se passer en 1969, à la rentrée scolaire 68-69. Bon, il y a eu des problèmes, et ça a conduit à la première année blanche d'ailleurs de l'Université de Dakar. Bon, après cela, il y a d'autres mouvements qui se sont déroulés jusqu'en 71. Bon, là, derrière moi, je n'étais plus étudiant, j'étais moniteur à la faculté des sciences, moniteur en mathématiques. Bon, mais comme Senghor lui considérait que tant que ma présence était visible à l'Université de Dakar, il n'y aura pas la paix. Alors finalement, il a profité d'une grève qui s'est déroulée en 1971 pour nous exclure tous de l'université, y compris moi. Ils nous ont incorporés dans l'armée. Moi, j'ai été incorporé le mercredi 31 mars 1971. Bon, donc chacun de nous avait fait ses 18 mois. Et on a été libérés en octobre 72, je crois.
Et ça a calmé les étudiants?
Non, pas du tout. Ils ont continué. Il y a eu encore des mouvements partout jusqu'à présent. De toute façon, les étudiants ne se calmeront jamais.
Nous, les femmes, on était d'abord très peu nombreuses parce que quand même, les familles ne nous soutenaient pas du tout. Hein. Et quand on allait en réunion, on était 3 ou 4 et on était repérés facilement aussi. On se battait avec la police. Ça, c'était quand même pas évident parce que la police, quand on venait, les gens, on disait, nous, on va se mettre devant parce que peut-être qu'ils vont hésiter à frapper des femmes. C'était la tactique. Donc, on faisait comme si on allait au marché Saint-Dagar. Donc, on avait le pagne décontracté, on marchait. Et tout d'un coup, on devait foncer sur la place du marché et se mettre à crier « Abat Senghor, abat l'impérialisme !» Mais la police ne regardait pas qu'on soit en jupe, en pagne ou en pantalon. Ils tapaient dessus, etc. Et c'est comme ça que nous avons commencé à créer des groupes spécifiquement féminins, où on se rencontrait, non seulement pour parler de politique, mais comme on était des femmes, il y avait les premières germes du féminisme aussi. Donc on commençait à parler la position des jeunes filles dans notre société, le poids de la famille, le fait qu'on n'avait pas cette liberté, L'accès à l'éducation, jusqu'à un certain point, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait les mariages précoces, et on organisait des débats comme ça aussi sur la polygamie, le mariage, etc. Et c'est par ce biais qu'on politisait un peu les filles pour les amener à comprendre qu'on ne pouvait pas continuer à accepter ça, il fallait changer. Donc, mai 68, pour les femmes, ça a été aussi la base du féminisme. Et c'est comme ça qu'en 70, j'ai été élue la première femme pour siéger à l'Assemblée de l'université. Et finalement, on m'a même proposé comme chef de délégation avec les Mbaïdiak et autres. Là. Mais je dois dire qu'à l'époque, on était tellement convaincus d'avoir raison, que la vérité est de notre côté. Et surtout, qu'on était de futurs martyrs, parce qu'on se voyait déjà... Bon, ça, c'est l'influence aussi. Nous tous, on a été influencés par la gauche prolétarienne et tout, comme des martyrs. On allait créer les conditions de la révolution. Donc, on n'imaginait pas avoir une vie normale. C'était pas possible de penser que 40 ans après, on serait là encore à poser ces problématiques-là.
Avec les témoignages de Ousmane Camara, Damba Moussa Dembélé, Mbaye Diack, Oumar Dioum, Marie-Ange Savané et Iba Dertiam. Merci à Badara Diom, Bouba Diop, Landine Savané et Ibrahim Asso. Merci également à Romain Masson et Karine Franck pour la préparation de ce documentaire. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Alain Joubert. Le mai africain, Dakar 68, ou la révolte des étudiants pour la démocratie. Séverine Yattar et Véronique Samuilov.
Voilà pour ce documentaire, deuxième temps de notre semaine consacrée au mouvement et formation des étudiants d'Afrique noire après les indépendances. N'hésitez pas à aller le réécouter sur le site internet pendant 1000 jours, le télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages également en allant sur les pages de la Fabrique de l'Histoire www.franceculture.fr ou encore en allant discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous parlerons de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF. Donc c'est le thème de notre émission de demain avec beaucoup d'archives.